الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Donc un nouveau cours, on va commencer aujourd'hui un nouveau cours sur le comportement. Alors, l'ouvrage qui est enseigné ici, concernant le comportement, c'est l'ouvrage de Cheikh Al-Utheimin intitulé Makarim Al-Akhlaq, les nobles caractères, les nobles comportements. Cet ouvrage, il est très très profitable pour débuter dans le comportement, dans l'enseignement concernant le comportement. Donc, Inch'Allah, il faut vraiment se concentrer, essayer d'assimiler toutes les fawaïd, toutes les choses importantes pour pouvoir ensuite les mettre en pratique. Donc avant de faire un petit récapitulatif, puis de commencer, de reprendre où on s'était arrêté dans notre ouvrage sur le comportement, on va vous citer, vous mentionner une situation, et ensuite vous commenter cette situation. Vous commentez cette situation pour arriver à une conclusion importante. Alors hier, on a eu une question. D'un étudiant qui, pendant un cours, pendant le cours, des enfants ont frappé à la porte en demandant des bonbons. Le frère, l'étudiant, leur a dit qu'il était musulman et qu'il ne fêtait pas Halloween. Les enfants, de lui dire salam alaikum, nous aussi on fête pas Halloween, mais on vient juste pour les bonbons. On vient juste pour les bonbons. Donc l'étudiant nous demande qu'est-ce que on doit faire dans cette situation. Et également, une autre ambiguïté, l'étudiant nous dit, mes parents ne comprennent pas l'aspect religieux qui se trouve dans Halloween. Donc, on va quand même vous donner la réponse. Comme il y a de la faïda dans le cours ce soir également, puisque c'était hier dans le cours du soir que cette question a été posée, on donnera une réponse et on expliquera pour la faïda, parce qu'il y a beaucoup de fawaïd. Vous savez, les questions-réponses, comme le disent les savants, on en apprend beaucoup dans les questions-réponses. Alors la réponse déjà, c'est qu'il ne faut pas leur donner de bonbons, Wallahu alam, et leur dire, ce n'est pas une question de friandises, de bonbons ou de chocolat, parce que vous pouvez revenir lorsque cette fête sera terminée, et on vous donnera des sacs de bonbons si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez revenir quand ça sera fini. Si c'est une question de bonbons pour vous, on vous donnera des bonbons. Et si on peut les conseiller, on les conseille. Deuxième chose, l'aspect religieux. L'aspect religieux. Il faut savoir une chose, on n'est pas encore arrivé à notre conclusion, pourquoi on parle de ça en début de notre cours, hein, ici dans le comportement. Vous allez voir à la fin. Vous inquiétez pas, vous allez voir à la fin. Conclusion, on dira conclusion à la fin. Pourquoi on vous a raconté ça? Alors, il faut savoir que la plupart, la grande majorité, voire la plupart des fêtes des koufars, si vous cherchez l'origine, vous trouverez que ce sont des fêtes de polythéisme, de païens, d'adoration d'autres divinités. Vous trouverez ça. Vous allez trouver ça dans les anniversaires. Vous allez trouver ça dans les anniversaires. La bougie, ça vient d'un truc de shirk où ils faisaient des adorations, juste la bougie, hein, les bougies, dans l'anniversaire. Vous avez, comment ça s'appelle, la Saint-Valentin, c'est pareil. C'est une fête de païens. Halloween, Wallahu alam, ils disent que c'est une fête anglo-saxonne, Irlande, Angleterre, choses comme ça, où c'était la fête des morts, ou la fête des saints, et ils donnaient, a'ouzou billah, hein, qu'Allah nous en préserve, où ils donnaient des offrandes à leur divinité de la mort, a'ouzou billah. Et nous, on est là, on est musulmans et on fait les fêtes des païens qui remontent à 2000 ans. Conclusion. 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 Les enfants des musulmans. Les enfants des musulmans. Les enfants des musulmans. Qui qui sont tellement ignorants, eux et leur entourage, que ils adhèrent à toute fête, à toute... Peut-être même, s'ils vous disent c'est pour les bonbons, peut-être même ils font Noël pour les cadeaux. Subhanallah. Et ils font les anniversaires pour les cadeaux aussi. Mais à la fin, t'es classé dans quelle catégorie quand tu fais ça? Je ne veux pas porter de jugement. Je vous amène à une réflexion. Ne crois pas que tu es classé dans la catégorie de ce qu'on parlait hier, les gens du Tawhid. Parce que là, il y a un grand malaise concernant le Tawhid. Alors, conclusion. Conclusion. Barakallahu fikoum, conclusion. Si nous, on n'apprend pas notre religion, si nous, on n'apprend pas notre religion, qui va apprendre à ta famille, à tes enfants, à ton entourage, dans un monde rempli d'ambiguïté, où tu peux t'égarer facilement? Des fois, même si tu le sais, regardez la réponse des enfants, on le sait, mais c'est pour les bonbons. Des fois, même si tu le sais, tu vas entrer dans du haram. Pourquoi? Par passion, par tes prix. Tes prix. Donc, conclusion, hein, pour ne pas s'évader, la conclusion, faut apprendre. Apprenez. Apprenez. Demain, vos enfants, ils vont se retrouver dans un monde contaminé. Contaminé. La fitna, elle est trop forte. Les réseaux sociaux, les cadeaux, les... La fitna, elle est trop forte. Si vous, vous êtes, vous ne, vous n'allez pas être là pour les conseiller avec qalallah, qalrasoul, la sagesse, la bonne exhortation, la darwa, si toi, tu ne connais pas ta religion, bah dis-toi que... Quand les ambiguïtés vont venir jusqu'à la porte de chez toi, tu ne sauras même pas comment t'en sortir. Wallahu al-musta'an. Attention. Il faut apprendre. Alors, notre ouvrage, Makarim al-Akhlaq. On a parlé dans un premier temps de comment se reflète, se manifeste le comportement. C'est-à-dire le cheikh Al-Uthaymeen, dans un premier temps, il a commencé son ouvrage par nous décrire le comportement, la définition du comportement. C'est la physionomie de l'homme qu'Allah a façonné. Comme nous le savons, il y a ceux qui ont une belle physionomie, ceux qui ont une laide physionomie. On parle du comportement. Il y a donc l'image intérieure. Il y a ceux qui ont une belle image intérieure, donc extérieurement, il y aura une belle image. Et il y a ceux qui ont une mauvaise image à l'intérieur, donc il en ressortira une mauvaise image extérieure. Sauf si ce sont des hypocrites qui cachent les choses. On verra l'hypocrisie, on expliquera l'hypocrisie dans les cours de Tawhid bientôt, Inch'Allah. Donc en gros, qu'est-ce que le comportement? On a vu que le comportement, c'est l'aspect de la personne intérieure qui se reflète extérieurement. Le caractère, el-khuluq, nous dit Cheikh Al-Uthaymeen, est donc l'image intérieure à laquelle l'homme est prédisposé. Taïb? Si on te demande c'est quoi le comportement, la définition du comportement, Tu dis c'est le caractère. Plutôt tu dis c'est l'image intérieure à laquelle l'homme est prédisposé. Alors on avait vu qu'il y avait deux formes d'acquisition du comportement. On avait vu qu'on pouvait avoir un bon comportement ou bien si la personne est prédisposée, Allah Ta'ala lui a donné certaines qualités du bon comportement, c'est automatique chez lui, c'est naturel. Ça, c'est la première forme. Et on avait expliqué la deuxième forme, c'est l'acquisition du comportement. Faut aller le chercher. Apprendre le comportement, prendre des cours de comportement, le kitab, la sunna, le Qur'an, la sunna, le comportement dans l'islam, et ensuite le mettre en pratique. S'entraîner. On nous dit que, Cheikh Al-Uthaymeen, il nous dit que c'est. Il faut s'entraîner au bon comportement. C'est pas comme ça. Il y avait même des salafs qui avaient comme technique d'entraînement, c'était de. Lorsqu'ils étaient dans des situations de conflit ou autre, c'est là qu'ils s'entraînaient à avoir un bon comportement. On appelle ça la mise en situation réelle, si vous voulez. Comme il y a des gens, hein, c'est un exemple, hein. Même si on ne compare pas, c'est juste un exemple. C'est comme il y a des gens, ils apprennent le sport, certains sports, comme les sports de combat, et ensuite, bon, c'est pas recommandé de le faire, hein. Mais il y en a ensuite, ils vont aller tester en situation réelle pour s'entraîner. Non, situation réelle, ça veut dire ils vont aller provoquer quelqu'un ou je ne sais quoi, ou alors ils attendent que ça, qu'on le provoque, et il va utiliser, voir si ça marche bien, s'il a bien appris, s'il arrive à bien mettre en pratique. Voilà. Alors je vous donne une faïda pour ceux qui vont s'y employer. Je vous donne une faïda. Il faut être très très vigilant et prendre beaucoup de recul. Si tu veux t'entraîner dans des situations réelles. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu ne pourras jamais. Tu pourras anticiper une situation réelle, mais tu ne pourras jamais, comme c'est de l'improvisation, tu ne sais pas réellement ce qui va se passer, tu ne pourras jamais être vraiment, te dire, moi je suis prêt, c'est bon, t'inquiète pas, j'assume. Parce que je vous donne un exemple. C'est pour ça qu'il faut être très 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 large dans la vision de je suis prêt et je vais. Je vous donne un exemple. Tu penses être prêt à pouvoir gérer une situation de crise, un débat, un conflit, même si ça va jusqu'aux insultes. Tu penses être capable de gérer. Écoute, Akhi Ourti, Taqillah, Taqillah. Tu sais bien que les insultes sont interdites, donc à partir de ce moment-là, on va arrêter le débat. Barakallahu fik, en tout cas. Qu'Allah nous réforme. Assalamu alaikum. Donc ça, on peut tous dire que, peut-être pas tous, hein, mais bon, c'est abordable. Mais si tu te prends un coup, si tu te prends un coup et que ça fait mal, est-ce que tu vas être capable de gérer, de dire khair, inshallah. Comme j'ai vu une fois dans une mosquée, un frère, il a dit à des anciens, il leur a dit ça, c'est une bid'a. Je crois qu'il s'est pris un coup de poing et il s'est fait arracher la moitié de la barbe. Donc, c'est juste pour vous dire, cette technique de vouloir mettre en pratique sur le tas, ça peut être dangereux. Donc, quand quand tu vas te t'y employer, sache qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment être prêt. Mais tu peux t'entraîner lors des petits conflits, les petits conflits verbaux, etc. Voilà, j'espère que vous avez saisi. C'est comme dans le sport. On croit être prêt, mais tu sais jamais en réalité ce qui va se passer. Tu crois être prêt à une bagarre, mais t'avais pas prévu qu'il va sortir un couteau. T'avais pas prévu qu'il va sortir un couteau. Ou t'avais pas prévu qu'il y en a deux autres, ils sont cachés. Quand le conflit va commencer, les deux autres, ils vont sortir. Tu vas te retrouver à 3-1. Donc peut-être que certains ont du mal à saisir mon approche, mais sachez que c'est de l'expérience, de la longue expérience, plus de 20 ans, et je peux vous dire que c'est du concret, hein. C'est pas du blabla, je vous assure. C'est pas du blabla. Je vais vous donner un vrai exemple qui m'est arrivé, comme ça vous allez bien saisir. Un jour, il y avait un frère, il était en difficulté, c'était un frère qu'on appréciait beaucoup, un étudiant. Il m'a dit, voilà, j'ai un problème avec d'autres étudiants et on va se retrouver dans une assise devant le cheikh. Et le frère, il était victime d'une injustice. Et il m'a dit, l'autre frère qui est en face de moi, l'autre étudiant qui va venir, il va ramener des frères avec lui comme des faux témoins, pour dire que le frère, il n'est pas bien. Donc je lui ai dit, Inch'Allah, je vais venir avec toi, akhi, je vais venir. Je vais venir pour te défendre, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Je vais venir, Inch'Allah. Il m'a dit, non, tu vas te mettre dans des problèmes. Je lui ai dit, c'est une injustice qu'ils te font. Inch'Allah, je vais venir, akhi, pour témoigner que tu es quelqu'un de bien, d'intègre, etc. Écoutez bien ce que je vous dis, hein. Là, c'est l'exemple typique de ce que j'essaye de vous expliquer. Donc moi, à ce moment-là, j'étais préparé, normal. Je me dis, voilà, il y aura deux, trois personnes. On va être devant le cheikh, on va parler tranquillement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le frère qui était en face de nous, il est venu avec une quarantaine de personnes à peu près. On va dire entre 20 et 40. Des enseignants, des gens qui sont vraiment qui tiennent, qui sont connus, qui tiennent la route, et des autres, c'est des inconnus, sont juste venus pour. On leur a dit, viens et tu te tais, tu fais juste acte de présence, c'est tout pour faire peur à tout le monde. Regardez, on est 40. J'avoue, j'étais surpris. Je vous dis franchement, je ne m'attendais pas, j'étais très très surpris. Mais alhamdoulillah, on était prêts. On était prêts. Donc on a assumé, on a défendu le frère et eux, ils se sont ridiculisés en face. Ils se sont ridiculisés parce que la première chose que j'ai dit au cheikh, je lui ai dit, cheikh, comme vous le savez, vous me permettez de prendre la parole, comme vous le savez, le grand nombre n'est pas une preuve de vérité. Et le cheikh nous a regardé et a dit, effectivement, effectivement, le grand nombre n'est pas une preuve. C'est pas parce que tu es venu à 40, 50, avec des notables ou avec ce que tu veux, que ça veut dire que vous avez la vérité. Hein. C'est une règle, hein. Au moins ça vous fera une faïda. Le nombre, ça impressionne, mais c'est pas une preuve de vérité. Donc là, je vous ai donné une preuve que vous savez jamais à quoi vous pouvez vous attendre. Vous avez une image. Vous avez une image. Ouais, il va se passer ça. Moi, je prends mes devants pour assumer ça, ça, ça. Telle situation, mais en vérité, tu sais pas. Tu sais pas. En vérité, tu sais jamais ce qui va se passer. Wallahu a'lam, hein, dans la plupart des temps. Pardon. Donc, quand tu dis je suis prêt, sois prêt vraiment à toute éventualité. C'est ça en réalité. Non. Donc également, on avait vu. Croyez pas que ce qu'on vous. Toutes ces choses qu'on vous explique, Wallah, c'est de l'expérience pour vous. Wallahi, il y en a peut-être, vous êtes nouveau, la plupart, vous êtes nouveau dans l'étude de la science, peut-être même dans le menhège, vous débutez. Vous avez, quand c'est comme ça, on a besoin d'un, comment dirais-je, comme un éducateur, quelqu'un qui a vécu plus de choses que nous, quelqu'un qui a plus de science pour pouvoir nous donner son expérience, nous. Le comportement, c'est ça aussi. C'est pas uniquement on va lire un livre, on vous donne de l'expérience. On vous donne de l'expérience. Alors, également, je vous donne une faïda. Avant de continuer notre cours, je vous donne une faïda. Ça va peut-être vous donner une expérience. On ne sait jamais hein, ce qui peut arriver dans la vie. C'est que nous, on part sur une règle que on aide l'opprimé. On ne pouvait pas laisser ce frère tout seul, un étudiant tout seul. Mais il faut savoir une chose. C'est que ça, c'est une chose que, sur le coup, je n'avais pas calculé. Il y a un élément que je n'avais pas calculé sur le coup, sur lequel j'étais prêt sans être prêt. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu vas te mettre face à un grand nombre de personnes, sache que ces personnes, comme ils ne pratiquent pas la religion, on va dire à 100%, ils vont devenir tes ennemis. Et après, c'est toute une autre histoire. En ayant voulu défendre une personne, tu t'es retrouvé avec, on va dire, une vingtaine, voire plus, d'ennemis. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et au moindre faux pas, ils t'attendent au tournant. Donc ça, c'est également un paramètre à prendre en compte. Si un jour tu veux rentrer dans quelque chose comme ça, défendre quelqu'un ou quoi, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, moi je regrette rien, mais je dis qu'il faut quand même prendre en compte, est-ce que tu es capable d'assumer après que les 20 personnes, tu les auras sur le dos? Pour défendre la vérité, une seule personne, tu en auras 20 sur le dos qui sont là à scruter. Il fait une erreur, on lui tombe dessus. Parce que c'est comme ça, l'être humain, il se venge. C'est comme ça. Dans la religion, il n'y a pas ces choses-là. C'est ce que je leur ai dit d'ailleurs. Je leur ai dit, hey, on reste. Quand on est sorti, je leur ai dit, on reste des frères. Hein. On a divergé sur une position. J'étais pas d'accord avec vous sur. On reste des frères. Ils ont été bloqués, ils ne savaient pas quoi dire, mais on voyait que. Ils étaient fâchés, pas contents. Wallah al-musta'an. Donc voilà, ce sont des choses importantes dans le comportement qu'il faut connaître. Taïb. On a vu ensuite, donc on a vu les deux formes d'acquisition de comportement. On a vu la première qui était que Allah Ta'ala, il peut te donner le comportement, c'est ça va devenir chez toi naturel. Et on avait vu que ce comportement naturel, c'est ce qui est mieux en réalité que d'aller le chercher. Alors ça ne veut pas dire que d'aller chercher le comportement, s'entraîner, etc., c'est moindre. Attention. Quelle que soit la manière, si tu as acquéri le comportement, le bon comportement, c'est formidable. C'est, Inch'Allah Ta'ala, pour toi, c'est une clé du paradis. Hein. Ils ont posé la question, comme vous le savez, au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui fait le plus rentrer au paradis? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu, At-taqwa Allah wa husn al-khuluq. Le bon comportement, la taqwa, la piété, la crainte d'Allah et le bon comportement. Donc, quelle que soit la manière dont tu vas acquérir le comportement, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème. Il faut que tu acquières le bon comportement, tu t'en saisisses. C'est ça le principal. C'est à la fin, est-ce que tu vas avoir un bon comportement? La manière, ce n'est pas grave. Tant mieux pour toi, si tu as Allah Ta'ala et t'a créé avec un bon comportement, tant mieux pour toi. Mais si ce n'est pas le cas, travaille. Travaille-le. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Malgré que Cheikh Al-Uthaymeen, il nous dit, et c'est vrai, il nous dit que celui qui a le comportement déjà c'est naturel chez lui, c'est mieux. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin de faire d'efforts, c'est naturel, c'est automatique. Le bon comportement, il ne se force pas. Mais, et c'est plus difficile pour celui qui fait des efforts pour acquérir le comportement, parce que lui, ce n'est pas automatique chez lui, ce n'est pas sa nature. Donc il se force. Et les savants disent que ça signifie que dans une situation de crise, il peut déraper, comme ce n'est pas naturel chez lui. Il peut déraper et revenir à la base de son naturel, c'est-à-dire s'il est nerveux, s'énerver, etc. Mais, je vais vous donner une faïda. Wallahu a'lam. Je vais vous donner une faïda, comme quoi ce n'est pas dans l'absolu. Et ça revient à ce qu'on vous a expliqué, comme quoi, vous voyez, hein, on n'explique pas les choses pour rien. Ça revient à ce qu'on vous a expliqué précédemment. C'est qu'une personne qui est entraînée, ça veut dire elle est partie chercher, apprendre le comportement, s'entraîner, eh ben, il se peut que dans une situation de crise, elle va mieux gérer qu'une personne qui, pour lui, c'est naturel, donc il s'entraîne pas. Il n'est pas habitué. Il n'a pas d'expérience, on va dire. Je vous donne un exemple, c'est comme un boxeur. Il s'est entraîné, entraîné, il a sué le soir, la nuit, il s'entraîne, il s'entraîne. Il va se retrouver dans une situation de crise. Et vous avez un autre boxeur, lui, comme c'est naturel, il a les gestes, il esquive facilement. Chez lui, c'est naturel la boxe. Il n'a pas besoin de s'entraîner des heures et des heures. Mais alors, il n'aura pas l'expérience face à l'autre, qui l'autre, à force de s'entraîner dans les situations de crise, etc., il a acquéri une expérience. Et croyez-moi, l'expérience, ça fait toute la différence. L'expérience dans toute chose, ça fait toute la différence. C'est bien pour ça que quand on vous prend pour un travail, on vous dit, est-ce que vous avez de l'expérience? On prendra celui qui a de l'expérience. Et on rejettera celui qui n'a pas d'expérience. Et dans la dawa, c'est la même chose. On doit se saisir, se retourner vers celui qui a l'expérience, et celui qui n'a pas d'expérience dans la dawa, c'est pas un atout pour lui. Bon, malheureusement, aujourd'hui, il y a un fléau, il y a des gens, énormément de jeunes, qui se tournent vers ceux qui n'ont pas d'expérience. Oui, il est resté 2 ans à Médine, 3 ans, ça fait. Il est à Médine, il est étudiant, ça fait 2 ans, 3 ans. Oui, mais c'est quoi son expérience dans la dawa? C'est quoi son expérience? Vous voyez? L'expérience, c'est très important. Donc, j'étais en train de vous dire que celui qui a le comportement naturellement, il peut être handicapé dans certaines situations par rapport à celui qui a, il s'est entraîné. Il est habitué aux situations de crise. S'il y a des gens qui lui tombent dessus, ils viennent pour l'insulter, le frapper ou quoi que ce soit, il est habitué à ces situations de crise. Tandis que l'autre, il n'est pas habitué. Il a un bon comportement, c'est inné, mais il peut déraper, hein. Il peut déraper. Donc, conclusion, c'est que dans les deux cas, il faut s'entraîner. Faut s'entraîner. Faut entraîner son nifs. Dans les deux cas, il y en a un qui a plus de facilité, mais ça ne veut pas dire qu'il est à l'abri. Ça ne veut pas dire qu'il est à l'abri. Wallahu a'lam. Voilà. Ensuite, dans notre petit récapitulatif de tout ce qu'on a fait précédemment, on a vu que le premier et plus important comportement, c'était le comportement avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Le comportement avec Allah, subhanahu wa ta'ala. On avait vu que le comportement avec Allah, subhanahu wa ta'ala, il y avait trois choses pour le concrétiser. Il y avait trois choses. On avait dit, il y avait trois vertus. On avait dit recevoir les informations révélées par Allah en leur donnant son plein assentiment. premier. En deuxième, on avait dit recevoir ces lois en étant disposé à les exécuter et les mettre en application. Et le troisième, on a dit recevoir ce qu'il, Allah, a décrété avec un cœur patient et satisfait. Alors le troisième, ça peut vous étonner, on le verra en temps voulu, hein. Recevoir ce qu'Allah a décrété avec un cœur patient et satisfait. Dans la réception du décret d'Allah, tout ce qui nous arrive, vous verrez qu'il y a deux degrés. Il y a le degré de celui que ça lui fait du mal à l'intérieur, mais il patiente. Et il y a le deuxième degré de celui qui... Et attention, ça peut vous étonner, mais c'est le plus haut degré auprès d'Allah. C'est quand il a n'importe quelle épreuve. Hein. Il est content, il est satisfait, et il remercie Allah pour cette épreuve. C'est le deuxième degré. Alors je vous laisse cogiter sur le niveau qu'il faut avoir de foi pour cela. Tu perds un proche, ou tu perds tous tes biens, ou quoi que ce soit comme ça, ou tu perds un enfant, et tu es satisfait, tu es heureux, et tu dis Alhamdulillah, tu remercies Allah. Ça, c'est le plus haut degré. Et le minimum qu'il faut avoir, c'est que même si ça te fait mal à l'intérieur, t'en parles pas, mais tu patientes. Tu patientes. Alhamdulillah, ala kulli hal. Qaddar Allahu ma sha'a fa'al. Et tu patientes. Mais se plaindre, tout ça et tout, ça, c'est pas la croyance du musulman, du croyant. Alors, nous, on avait expliqué, ensuite on était arrivé là où Cheikh Al-Uthaymeen, il va nous expliquer ces trois vertus, ces trois choses importantes, fondamentales pour concrétiser le comportement envers Allah, subhanahu wa ta'ala. On avait expliqué le premier, le bon caractère dans le comportement à l'égard du Créateur. On avait expliqué le premier, recevoir les informations révélées par Allah en leur donnant son plein assentiment. On avait dit que ça signifie que tu dois recevoir tout ce qui vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sans avoir d'ambiguïté, de doute, en te soumettant, en acceptant complètement. Taïb. On avait terminé l'explication du premier. Alors, j'ai oublié, est-ce qu'on avait fait le deuxième ou pas? Il me semble qu'on avait fait le deuxième et on était au troisième. Donc personne ne se rappelle où est-ce qu'on était resté dans le cours précédent. La deuxième, Cheikh Al-Uthaymeen nous dit la deuxième, c'est recevoir ces lois en étant disposé à les exécuter et à les mettre en application. Alors, je vais juste vous donner une faïda. C'est pas péjoratif, attention. Hein. Vous savez que si vous êtes là, c'est pour apprendre. Et si nous, on est là, c'est pour vous apprendre. Mais les savants disent, et vous trouvez ça dans l'explication de Hilyatu Talib al-Ilm, la parure de l'étudiant, que la motivation de l'enseignant, elle est en fonction de la motivation des étudiants. La motivation de l'enseignant, elle est en fonction de la motivation des étudiants. Si le professeur, l'enseignant, il voit que les élèves, sont motivés, ils participent. Il y a toute forme de participation. Et ils suivent les cours, etc. Ils répondent aux questions, etc. À ce moment-là, l'enseignant, il est motivé. Naham. Mais si ce n'est pas le cas, comme le dit Cheikh Al-Utsaimin et d'autres savants dans la parure de l'étudiant, explication de la parure de l'étudiant, l'enseignant, c'est pas qu'il va plus être motivé, mais c'est qu'il va agir en fonction de la motivation des élèves. C'est automatique, hein. C'est comme ça que ça fonctionne dans les sciences religieuses. Les savants, ils prennent la température dans les cours, et en fonction des élèves, ils vont ou pas. En fonction des élèves, ils vont ou pas. Le prof, il va être ou plus motivé ou moins motivé. Ça veut dire que les élèves, ils vont moins profiter. Si le professeur, il est moins motivé, les élèves, ils vont moins profiter. Par exemple, dans notre première classe, c'est Allah Ibarak, on ne peut pas espérer mieux. On ne peut pas espérer mieux. Mashallah, ça participe, ça pose des questions. Avant que j'ai fini une question, ils ont déjà répondu, Allah Ibarak, Mashallah. Donc, eux, ils ont profité, ils sont en train de profiter et ils vont profiter au maximum. Ils vont profiter au maximum. Mais il n'y a pas de mal, hein. Il n'y a pas de mal pour votre groupe, franchement, il n'y a pas de mal. On ne dit pas ça pour vous reprocher quelque chose ou quoi, c'est juste pour vous informer que le professeur, il va s'adapter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce cas, le professeur, ce qu'il va faire, il va adapter. Parce qu'il est obligé de s'adapter à la classe. Il va s'adapter à votre classe. Il ne va plus poser de questions. Et il y aura un certain profit qui va être perdu. Qui va être perdu. Parce qu'il va se dire, bon, les élèves dans cette classe, alors ils veulent juste, on fait le cours. On vient, on fait le cours. Et merci, au revoir. Donc c'est profitable également. Hein. On peut adopter cette méthode. Mais je vous le dis, en tant qu'enseignant, vous allez perdre. Vous allez perdre. Vous allez en fait vous contenter du minimum. Alors que avec les questions-réponses, avec on peut profiter beaucoup en motivant l'enseignant également. Voilà, ça c'est une faïda, c'est pour vous, hein. Il n'y a rien de mal, il n'y a rien de. Mais c'est juste pour vous mettre au courant. Si vous voulez cette méthodologie-là, nous, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on peut le faire. Inch'Allah. Alors, on a un commentaire. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakum Allah. Le deuxième point, on a vu le deuxième point qu'il faut absolument mettre en pratique le bon comportement avec Allah, qui est de recevoir les jugements dans la législation en s'y exécutant et en s'y conformant. À Oustaz, pardon. Il n'y a aucun souci, subhanallah. Pas de souci. Il n'y a pas de souci, comme je disais, les élèves choisissent la méthodologie qu'ils veulent pour leur groupe. S'ils veulent qu'on pose pas de questions, il n'y a pas de souci, on posera plus de questions, et voilà. Inch'Allah ta'ala. En tout cas, barakallahu fikoum, vous voyez le profit. Juste avec la réponse de l'étudiante ici, ça m'a fait rappeler qu'on a déjà vu la deuxième. Vous voyez, moi j'avais oublié, est-ce qu'on l'a vu ou pas? Et là, ça m'a fait rappeler. Juste avec la réponse ici, ça m'a fait rappeler que oui, ah ouais, c'est vrai, on l'avait vu. Vous voyez comme quoi c'est important? Wallahu a'lam. Donc je peux comprendre, hein, ceux qui sont timides, ceux qui débutent dans la science. Écoutez, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Chacun choisit sa méthodologie. Si vous préférez la méthodologie de pas de questions, pas de réponses, on fait notre cours. Il n'y a aucun souci. On le fera comme ça, Inch'Allah ta'ala. Taïb. Par contre, dites-vous que dans l'autre classe, ils ont un bon niveau. Ils ont un très très bon niveau, Allah ibarak, parce que ça pose les questions, ça. Ils profitent. C'est pas que. on a un minimum à profiter parce qu'on a un cours, on a un programme. Donc c'est pas que vous allez pas profiter, mais eux ils vont profiter au maximum parce qu'ils posent des questions, ça participe au cours, j'ai pas le temps de faire ma question qu'ils ont déjà répondu, etc. Participation, c'est 10 sur 10, 20 sur 20. Naham, vous voyez? Et moi-même, j'apprends des choses avec eux. Lorsqu'ils posent des questions, on va faire des recherches, donc on apprend des choses. C'est ça le talibul ilm. Hein. C'est ça le talibul ilm. Naham, c'est ça le talibul ilm. Après, je peux comprendre. Alors, pour les étudiantes, je peux comprendre. Peut-être il y en a. Voilà, c'est comme ça. Nous, on parle pas. Ça, je peux le comprendre. Et on doit respecter ça. Mais les étudiants, les frères, il n'y a pas d'excuses. Les étudiants, c'est pas méchant, péjoratif, il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Bon, je sais, il y a des étudiants, ils sont en plein de travail, tout ça et tout, je peux le comprendre aussi. Hein. Je peux le comprendre. Quand on est en plein travail. Après, quand il y aura une note de participation, vous savez, nous, on aime bien être juste dans les notes, etc. Note de participation, Khair, inshallah. Recevoir, donc le deuxième, on l'a vu, c'est recevoir ces lois en étant disposé à les exécuter et les mettre en application. Et les mettre en application. Le troisième, Cheikh Al-Utsaimin. Donc là, on est en train de parler, d'expliquer des points fondamentaux, c'est-à-dire pour concrétiser le comportement avec qui? Avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Le comportement le plus important, c'est le comportement avec Allah, ta'ala. Taïb, il y a des gens, Cheikh Al-Utsaimin, il nous dit, il y a énormément de gens qui pensent que le comportement, il s'arrête au comportement avec autrui. En réalité, et il y a beaucoup de gens qui oublient le comportement avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Quand tu fais une désobéissance, quand tu fais une déviance, quand tu fais des choses graves, il faut savoir que c'est un mauvais comportement avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Quand tu désobéis, il y a énormément de gens, quand tu veux pas accepter les lois d'Allah, des certaines sunnahs, etc. C'est pas un bon comportement avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, la troisième, recevoir ce qu'Allah a décrété avec un cœur patient et satisfait. Cheikh Al-Utsaimin, rahimahullah, nous dit, nous savons tous que parmi les décrets d'Allah concernant ses créatures, il y a celles qui conviennent à la nature de l'homme et celles qui ne lui conviennent pas. On est d'accord. La maladie convient-elle à la nature de l'homme? La réponse est non. L'homme aime en effet jouir d'une bonne santé. La pauvreté convient-elle à la nature de l'homme? Non. La réponse est non, puisque l'homme aime être riche. Donc, Cheikh Al-Uthaymeen nous dit qu'il y a des choses qui se produisent, mais que l'homme n'aime pas forcément. L'homme, il n'aime pas être malade. L'homme, il n'aime pas être pauvre. Également, l'ignorance convient-elle à la nature de l'homme? La réponse est non. L'homme aime être savant. Seulement, ce qu'Allah a décrété par sa sagesse pour les hommes varie. Cela varie. C'est variable. Il y a ce qui leur convient et leur procure un bien-être en raison de leur nature. Il y a ce qui leur convient et leur procure un bien-être en raison de leur nature. Et il y a ce qui ne leur convient pas. On aime bien le confort, l'être humain, c'est dans sa nature, il aime bien le confort, il aime bien être à l'aise, il aime bien être aisé, il aime bien être en bonne santé, tout ça. Tout ça. Il aime bien être tranquille. Bon, pour certains, on se le demande, hein, s'ils aiment la tranquillité, tout le temps ils sont dans les problèmes, les fitnes, on se pose des questions, mais bon. Normalement, l'être humain, il aspire à la tranquillité. À la tranquillité. À la sérénité. Ça, c'est les gens normaux. Hein. Cheikh Al-Uthaymeen, il nous dit. Ah, bon, On continue, on va développer, c'est une faïda. Ça, c'est pour les gens normaux. Les gens normaux, ils aiment la tranquillité, la sérénité, ils n'aiment pas les problèmes. Les gens qui ont des soucis, ce sont ceux qui... Alors ceux qui sont toujours dans les problèmes, dans les troubles, qui les provoquent, qui aiment ça et tout, eux, il faut qu'ils se posent des questions. Ils ont un problème, un réel problème. C'est pas normal de se retrouver tout le temps dans les problèmes et d'aimer les problèmes. Alors se retrouver tout le temps dans les problèmes, ça peut être discutable. Parce qu'il y a des gens bien et des gens de la vérité qui sont tout le temps dans les problèmes parce qu'on leur cherche des problèmes. Non. Il consiste, alors, en quoi consiste alors le bon comportement à l'égard des décrets d'Allah? Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, il consiste en ce que tu sois satisfait à l'égard de ce qu'Allah a décrété. Pour toi, reçois ces décisions avec un cœur serein et sache qu'Allah n'a décrété pour toi telle et telle chose que pour une raison sage et un but sublime pour lesquels il mérite qu'on le loue et qu'on lui témoigne de la reconnaissance. Ceci étant, le bon comportement envers Allah vis-à-vis de ses décrets consiste en ce que l'homme manifeste de la satisfaction. Ça, c'est le plus haut degré, hein. On vous a expliqué tout à l'heure. Tu es satisfait. N'importe quoi qui t'arrive, à la limite, tu es content. Parce que tu sais que ça veut dire que Allah Ta'ala, il ne t'a pas délaissé. Vous savez que les salafs, les pieux prédécesseurs, s'ils n'étaient pas éprouvés, ils s'inquiétaient. Parce que si tout va bien et t'as pas d'épreuve, c'est inquiétant. Naam. Ceci étant, le bon comportement envers Allah vis-à-vis de ses décrets consiste à ce que l'homme manifeste de la satisfaction, de la soumission, de la sérénité. C'est pourquoi d'ailleurs Allah a fait l'éloge des patients. Il a dit, Allah l'exalté, portez-en la bonne nouvelle aux patients. Ceux qui disent, lorsqu'un malheur les frappe, nous sommes à Allah et en fait c'est vers lui que nous retournerons, que nous revenons, pardon. Sur cela descendent des indulgences de leur Seigneur et une miséricorde, et ceux-là sont bien guidés. Pour résumer ce qui précède, nous disons que comme la noblesse du caractère se manifeste dans le comportement envers les gens, elle se manifeste aussi dans le comportement envers le Créateur. Taïb. La noblesse du caractère dans le comportement envers le Créateur consiste à donner son plein assentiment, ça veut dire faut accepter pleinement, complètement, aux informations qu'il énonce, à mettre en application ses prescriptions, et à recevoir ce qu'il a décrété pour soi avec un cœur patient et satisfait. Alors attention, en une phrase, on va essayer ici, cette troisième forme de bon comportement avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Attention, c'est très important parce que ça rentre dans la aqida, dans le tawhid, hein, dans le dogme. C'est très important, c'est d'accepter la prédestinée d'Allah subhanahu wa ta'ala avec patience et satisfaction. Parce que si tu t'énerves, si tu n'acceptes pas au fond de toi-même, c'est un manque dans le tawhid. C'est un manque dans le tawhid de ne pas accepter, de se fâcher. Et vous savez, je vous apporte une faïda en plus, c'est que les savants disent que lorsque tu reçois, ou plutôt lorsque tu subis le décret d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on dit que tu es compté, jugé sur ta première réaction. Sur ta première réaction. Donc il faut faire attention, ça aussi ça nous aide à nous entraîner. Hein. Dès qu'il t'arrive quelque chose, c'est comment tu vas réagir sur le coup, pas après une fois que t'es calmé, que t'as encaissé. Wallahu a'lam, les savants disent c'est sur le coup. Comment tu vas réagir? T'as patienté, tu t'es énervé, t'as tout cassé. C'est ça. C'est pour ça que, au niveau du comportement, dans toutes les bases, dans tous les domaines, pardon, du comportement, il faut toujours que tu prennes du recul. Quand il t'arrive quelque chose, ne réagis jamais à chaud. Vous savez, je vous donne un exemple. Nous, en tant qu'étudiants, un petit peu mis en avant sur, en public, sur les réseaux sociaux et autres, on a déjà subi des attaques. Et vous savez que des attaques, comme le dit Cheikh Al-Othaymeen, c'est pas facile parce qu'on n'aime pas qu'on nous traite de ceci ou de cela, d'égaré ou de quoi que ce soit. Cheikh Al-Othaymeen le dit, hein, n'importe qui n'aimerait pas. On n'est pas content. Mais surtout aujourd'hui, avec des gens, une génération ou des gens qui n'ont aucun respect. Hein. Donc comme le dit Cheikh Al-Othaymeen, le détracteur, celui qui est jaloux ou celui qui va t'attaquer, il va essayer de toucher les points que toi, ils sont sensibles, ça va t'énerver. Et ils le savent ces gens-là. Ils le savent qu'on ne doit pas toucher l'honneur, qu'on ne doit pas toucher la famille, qu'on ne doit pas. Alors aujourd'hui, tous les coups sont permis. Ils vont entrer dans ce domaine-là. Et moi, la recommandation que je vous fais, on ne vous souhaite pas que ça vous arrive, mais la recommandation, c'est toujours de ne jamais répondre à chaud. Tu te poses, d'ailleurs, c'est la recommandation du prophète, va faire le dos, assis-toi, dis A'ouzou billahi minash shaitan irrajim, ne t'énerve pas. Même si tu es fâché, va t'asseoir, va faire le dos et attends que ça passe. Mais ne prends jamais la parole, ne réponds jamais lorsque tu es fâché, c'est sûr que tu vas faire des. Tu vas le regretter après. Donc ça, c'est pas facile, mais faut s'y entraîner. Il faut prendre du recul. Quand on vient t'attaquer, prends du recul. C'est comme si on vient t'attaquer physiquement, ne réagis pas tout de suite physiquement. Quelqu'un, il va venir par exemple pour t'attaquer physiquement, tu vas par exemple le pousser ou alors allonger ton bras, on appelle ça mettre la distance de sécurité entre toi et lui. Tu vas allonger ton bras. Des fois, c'est moins violent que de pousser une personne. Allonger ton bras, la pousser un peu, et lui dire qu'est-ce qui t'arrive? A'ouzou billah, taqillah. C'est quoi le problème? Quel est le problème? Tu prends du recul. Alors ça, c'est très difficile pour les personnes qui sont, comment on appelle ça? Impulsifs. C'est très. Wallah, vous pouvez mettre même. Des fois, ça peut mettre 10 ans et 15 ans avant d'arriver à ce niveau-là. Quelqu'un qui, normalement, sa nature, c'est. Tu poses une main, le coup, il est parti sur toi. Il y a des gens comme ça. Il n'y a pas de discussion. T'as levé la main, c'est fini pour toi. Mais on sait que le musulman, il ne doit pas faire ces choses-là. Il ne doit pas réagir comme ça. Le musulman. Et en plus. Au pire, si le musulman il doit se défendre, il va se défendre de manière. Attention, c'est une parabole qui marche même pour les attaques verbales. Il va se défendre de manière propre. 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 Et je vous le dis, c'est possible. Je vous le dis, c'est possible. Comment font les gens qui travaillent dans la sécurité? Ils n'ont pas le droit de frapper les gens au visage. Ils n'ont même pas le droit de frapper les gens. On leur dit, tu maîtrises la personne et tu te débrouilles. Sinon, c'est une plainte sur toi. Eh ben voilà, ils ont des gens qui viennent en fonçant sur eux et il faut qu'ils les maîtrisent. Le maîtriser, pas le frapper, le maîtriser. Eh ben ça, c'est pareil. Quelqu'un qui t'attaque verbalement, qui t'insulte, faut le maîtriser. Il faut le maîtriser. Tu prends du recul. Lui, il est en train de t'insulter et toi, tu prends du. C'est arrivé dernièrement à un prêcheur. Il faisait insulter Miskine, tout ça. Combien de prêcheurs d'ailleurs? C'est arrivé à plein de gens dernièrement. On insulte leur mère, on met des photos d'eux. Wallah al-musta'an. Non? Vous remarquerez que les étudiants, ils ont pris du recul. Pas d'insultes, pas de... Ils ont pris du recul, ils ont répliqué proprement comme il le fallait. Comme il le fallait. Donc, le bon comportement fait partie du bon comportement de recevoir le décret d'Allah avec patience et satisfaction. Ça, c'est la troisième. Ça veut dire que lorsque tu vas être dans une situation difficile, essaye d'encaisser. Alors, bien entendu, les ulama disent, il n'y a pas de mal à pleurer, hein. Il n'y a pas de mal à pleurer. Mais attention, il y a pleurer et pleurer. Il y a une forme. Lorsque tu vas tomber dans cette forme de pleurer, c'est légiféré, c'est permis. Et il y a une autre forme. Lorsque tu vas tomber dans cette forme-là, c'est... Tu peux entrer dans ce qu'on appelle el-niyaha. Et niyaha, vous savez, c'est quand on pleure, on s'arrache les cheveux, on se griffe, on crie, et là, c'est la malédiction d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, on va s'arrêter là parce qu'après, on entre dans un autre domaine, et rappelez-vous, on s'arrête ici. À la kulli hal, nous, on ne le demandera plus, hein. On ne le demandera plus, mais rappelez-vous où est-ce qu'on s'est arrêté ici? On s'est arrêté quant au beau comportement avec les gens. Cela se résume dans la phrase suivante attribuée notamment à Al-Hassan al-Basri. Parce que là, on va passer à autre chose. On va passer au comportement, au bon comportement avec les gens. Dans le prochain cours, à partir du prochain cours, on va parler du comportement avec les gens. Et vous allez voir que c'est très important et très rare. Les qualités qui sont mentionnées par Cheikh Al-Uthaymeen ici, elles sont très rares, malheureusement. Visage resplendissant, sourire quand tu rencontres quelqu'un, ton frère ou ta sœur. On le verra dans le prochain cours, c'est très intéressant. On a terminé par la grâce d'Allah, c'est un petit résumé hein, du bon comportement avec Allah, subhanahu wa ta'ala, à savoir que dans d'autres cours, on ira plus loin. Dans le détail du bon comportement avec Allah, il faut pratiquer les ordres d'Allah, il faut s'éloigner des interdits d'Allah, mettre en pratique le tawhid. Mettre en pratique le tawhid, c'est également un bon comportement avec Allah, parce que si tu fais du polythéisme, de la mécréance, de l'hypocrisie, des innovations, c'est un manque de comportement avec Allah dans tout ce qui touche au dogme, la croyance, etc. Naam. Donc, Inch'Allah ta'ala, on vous donne rendez-vous demain pour les cours. Le cours sur, normalement c'est le fiqh, naham, wa subhanaka Allahumma wa ma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayka, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.